Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs, merci d'écouter Canal Académie. Aujourd'hui, nous parlerons de géographie, de poésie, de géopoétique, devrais-je dire. Oui, c'est un néologisme, mais vous me pardonnerez parce que ça convient particulièrement à l'œuvre de Kenneth White en général et à son dernier ouvrage en particulier. Le dernier ouvrage intitulé « La carte de Guido, un pèlerinage européen ». Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci de votre visite dans notre studio.
Plaisir est pour moi.
Vous êtes poète, écrivain, essayiste d'origine écossaise. Vous avez choisi la France depuis longtemps. Je crois que vous habitez en Bretagne.
Depuis 83. Avant ça, c'était les Pyrénées-Atlantiques et avant ça, c'était Paris.
Oui, vous avez déjà beaucoup voyagé partout, en Europe et en France.
Un peu, oui.
Donc votre œuvre est immense. Elle est écrite à la fois en anglais, je pense à vos poèmes et à vos récits, et en français pour les essais.
Exact.
Vous êtes considéré dans le monde comme un des plus grands auteurs contemporains. Votre livre précédent, Les affinités extrêmes, paru chez Albin Michel en 2009, a reçu le prix Maurice Genevois de l'Académie française. Et hors antenne, vous évoquiez ce livre comme une autobiographie par personne interposée. Est-ce que vous pouvez, avant de parler de la carte du Guido, nous parler un petit peu des affinités extrêmes?
Oui, alors dans ce livre, effectivement, je voulais rendre hommage à certains écrivains de langue française qui me semblent d'absolument premier ordre, insister sur le fait qu'il n'y a pas que la littérature américaine, d'autres littératures. Et c'est un peu ma famille d'esprit. Tout à l'heure, vous avez évoqué la géographie. Ce n'est pas pour rien que ce livre commence par Élisée le Reclus.
La nouvelle géographie,
la géographie universelle, qui est une de mes bibles, si je puis dire.
Hein. On en reparlera encore pour la carte de Guido, d'accord, parce que vous l'avez évoqué aussi.
Voilà. Arthur Rimbaud, La désertion absolue, Victor Ségalen, L'équipée exotique, Saint-Jean de Perse, immense, La grande dérive, André Breton, Le champ magnétique, Louis-Ferdinand Céline, La nuit scabreuse, Henri Michaud, La transgression tranquille, Charles-Herbert Saint-Gria, L'esprit erratique, Joseph Delteil, La complétude phénoménale, et Émile Cioran, La vacuité cosmogonique. Donc une dizaine d'écrivains qui me sont proches depuis longtemps et à qui je voulais rendre hommage. Donc autobiographie par personne interposée, une famille d'esprit française, et puis, en troisième lieu, une certaine idée de la littérature, parce que ce mot couvre beaucoup de choses. Je voulais lui donner, comme au mot pensée, comme au mot poésie, la force et l'espace qu'ils avaient dans d'autres états de culture et de civilisation. Leur donner toute la puissance qu'ils peuvent avoir. Et il me semble que ces écrivains-là, ces écrivains de langue française, véhiculent cela.
Oui, vous me faites penser à ce qui est maintenant assez à la mode, mais très intéressant, c'est la littérature comparée. C'est-à-dire qu'à partir d'un écrivain puissant, on voit comment le monde entier on s'en est nourri.
Oui, souvent la littérature comparée, c'est prendre dans la littérature française, par exemple, un certain livre qu'on peut comparer à la même forme de livre dans d'autres cultures. Là, je voulais, en quelque sorte, ne pas comparer, mais m'occuper d'écrivains qui se situent non seulement face à leur société immédiate, même pas seulement face à l'humanité, mais qui ont un rapport à l'univers. Ils ont vraiment beaucoup d'envergure. C'est plutôt ça que je voulais faire.
Sachant quand même que la littérature comparée, ce n'est pas comparer la littérature, c'est les idées.
Ah, ça peut être les idées, voilà, aussi, bien sûr.
À la carte de Guido, pourquoi, pour nous conduire sur votre Europe buissonnière, vous avez choisi la carte de Guido? Pourquoi est-ce que c'est elle qui mène le champ de vos balades écossaises ou irlandaises, nostalgiques, lyriques, caustiques aussi?
J'espère.
Parce que vous maniez la culture, la poésie et l'humour noir. Il y a pas mal de subtilités aussi dans votre humour, toujours les clins d'œil. Alors, pourquoi la carte de Guido et quelle est votre géographie intime de l'Europe à partir de ça ?
Je suis un grand amoureux des cartes. Hein. J'ai des douzaines, peut-être même des centaines de cartes chez moi, vieilles et modernes. On dit quelquefois que la carte ne parle pas le territoire, mais la carte, à mon avis, est une bonne introduction au territoire. Donc, je m'intéresse aux cartes pour leur beauté et pour leurs informations. Grand amoureux des portulans, hein, les cartes qui vont de port en port. Et à un moment donné, dans mes lectures, dans mes explorations cartographiques, j'ai tombé sur la référence à cette carte, une carte qui se trouve dans un livre, Guidonis Liber, le livre de Guido, écrit par un certain Guido de Pise au XIIe siècle. Et ce livre, dont le meilleur manuscrit se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles, contient à la fois de la cosmographie, une vision totale des choses, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie et de la poésie. Alors, sans prendre bien sûr ce livre comme modèle, je me suis dit que c'était une bonne référence pour le livre que je voulais faire, qui serait une exploration de l'Europe. Et ma géographie dans ce livre va grosso modo de l'Irlande aux Balkans et de la Scandinavie à l'Espagne, en allant... Peut-être une des différences avec mes autres livres, Le Rôdeur des Confins, par exemple, ou La Route Bleue, c'est qu'il y a peut-être plus de villes dans ce livre. Je m'intéresse peut-être plus aux villes, ici.
Et oui, vous n'avez pas hésité à citer des grands géographes, le moine Beatus, qui a fait à la fin du 8e un commentaire de l'Apocalypse, que vous appelez finalement comme une carte du monde.
Tout à fait. Oh, il y a des cartes partout dans ce livre. Il n'y a pas un chapitre, je crois, une section, il n'y a pas une carte.
Ortelius d'Anvers, qui a dessiné le premier atlas de Mercator. Non, voilà. On en parlera bien sûr pas infiniment, parce qu'on sait que c'est lui qui a inventé le système de projection cartographique.
Exactement, ça m'intéresse.
Et puis, ce que j'ai trouvé très touchant aussi, c'est que vous parlez d'accord des cartes, de ce qui est physique et extérieur, mais vous parlez aussi des courants souterrains de l'Europe, les Celtes, les Slaves et le judéo-christianisme. Et eux, autant que les cartes, ils ont façonné l'Occident.
Bien sûr. L'Europe commence avec un mythe, c'est Zeus qui, déguisé en taureau blanc, prend une princesse phénicienne. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses là. L'Occident a commencé par une fascination à l'Orient et en même temps, on veut s'en détacher. Le taureau blanc, c'est à la fois une puissance terrestre, puissance physique, et le blanc, c'est un certain absolu. Ensuite, l'Europe est romaine, la légende devient une légion. Ensuite, c'est le christianisme. Ensuite, dans les temps, ce sera Napoléon. Napoléon voulait créer une première Europe. On pourrait dire que les Celtes avaient déjà une première Europe. Après Napoléon, on commence à penser en termes d'une nouvelle Europe politique, et c'est Aristide Briand. Et aujourd'hui, nous avons une Europe économique. Nous avons, je dirais, le début d'une Europe politique. Ce que nous n'avons pas encore, à mon avis, c'est le sens d'une Europe, vraiment une nouvelle Europe culturelle. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, Jacques Delors a demandé de l'âme pour l'Europe. Là. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, moi, mon vocabulaire n'est pas celui de Delors. C'est très manifestement un vocabulaire chrétien, une référence à un autre stade de la culture européenne. Mais à mon avis, effectivement, l'Europe a besoin aujourd'hui, disons, d'un discours plus inspirant. Plus inspirant. Et ma foi, c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre. Donner une sensation de l'Europe à la fois vive et profonde. Ce n'est pas un traité économico-politique, évidemment. Encore que, dans un paragraphe ici et là, quand j'écoute des avocats parler dans le train entre Paris et Bruxelles, on peut apprendre en un paragraphe ou deux beaucoup plus sur l'économie et la politique que dans un traité. Ou bien quand j'écoute des conversations d'hommes d'affaires, on entre tout de suite dans le contexte économique dans lequel nous vivons. Mais le but principal du livre, c'est de donner une sensation de cette Europe, et je dis tout de suite, une Europe ouverte sur le monde. C'est une Europe erratique qui m'intéresse.
Il faut ouvrir la carte du territoire.
Moi, je pense toujours en termes d'un monde ouvert. Aujourd'hui, nous vivons, je dirais, coincés presque entre d'un côté une espèce de mondialisme, une espèce de bulldozer qui aplatit tout, y compris la culture, la pensée et les vies. Et en réaction contre ça, réaction que je peux comprendre tout en me disant que ce n'est pas la solution, on a des enfermements dans des idéologies identitaires, quelquefois des fanatismes purs et durs, des localismes peu bornés. À mon avis, il y aurait autre chose à trouver et c'est ce que j'appelle le monde ouvert. Et ce monde ouvert commence là où on est. Parlons un peu de connaissances aussi. Si, où qu'on soit, on a deux ou trois petites notions d'ornithologie, il suffit de regarder dans l'air et savoir que l'oiseau qu'on voit a peut-être fait le tour du monde. Un petit oiseau au fond du jardin a peut-être fait le tour du monde. Ça donne une expansion à l'esprit. Deux ou trois petites choses sur la géologie, on peut partir de la craie de la région parisienne et arriver au Caucase. Deux ou trois petites choses sur le système fluvial, deux ou trois petites choses sur la linguistique, les langues ont beaucoup, beaucoup migré. Hein. Donc, le monde ouvert peut commencer là où on est. On peut être dans une localité et aller tout de suite du local au global naturellement. Moi, je suis pour les localités, mais contre les localismes. Ces petites identités qu'on peut comprendre, mais qui sont des enquistements en quelque sorte. Je suis pour un monde qui respire. Je suis européen, donc je commence en Europe. Un Africain va commencer en Afrique, etc. Un oriental en Orient. Moi, je suis ouvert à toutes les cultures du monde. On peut dire qu'il y en a eu 35 depuis le début de l'humanité. Et moi, j'ai passé mon temps à essayer de les comprendre.
35 cultures?
On peut le dire, depuis le début de l'humanité. Bien sûr, avec des colorations locales. Par exemple, la culture bouddhique, la culture chrétienne. Je veux dire, grande dans ce sens-là. Je ne suis absolument pas en train de parler en tant qu'impérialiste. Mais grande dans ce sens qu'elles font vivre des populations. Elles donnent une expansion à l'esprit. Elles augmentent la sensation de vivre. C'est ça, la culture. Et tandis que nous, nous avons des produits culturels à n'en plus finir. Et on étouffe un peu dans la surproduction.
J'ai remarqué que vous aviez un grand amour, alors on parle des siècles très anciens, pour Pélage. Vous dites mon Pélage,
ouais.
Qui s'opposait à Saint-Augustin.
Oui,
et est-ce que lui, justement, Pélage, est-ce qu'il n'avait pas une ouverture? Le pélagisme, est-ce que ce n'était pas plus ouvert que ce que le christianisme a un peu imposé?
Tout à fait, c'est pour ça que je m'intéresse à lui. Pélage, donc... ce moine qui vivait sur les îles de l'Ouest, là, s'est opposé à Augustin et s'est opposé surtout à la notion de péché originel qui a fait beaucoup.
Oui, à la grâce et au péché originel.
Voilà, voilà. Lui, il disait que la nature n'est pas nécessairement bonne, mais c'est la base. Et il faut travailler la nature, et travailler la nature, c'est la culture. Donc, à mon avis, effectivement, il ouvrait un tout autre espace et il faisait partie de tout un christianisme, on ne parle que du christianisme, parce qu'il y a plusieurs courants dans le christianisme, et lui ouvre cet espace où, contre le péché originel, un intérêt pour la nature, un intérêt pour les langues du monde, ces moines celtes de l'Ouest parlaient le gaélique, bien sûr, la langue locale, mais ils parlaient aussi le latin, le grec et l'hébreu. Et ce n'est pas pour rien que, après avoir été juchés en quelque sorte sur leur rocher pendant des années, ils décident de déferler sur le continent, et ils vont arriver ici, en France et dans d'autres pays, en fondant des monastères, des écoles, des bibliothèques, Saint-Gall, etc., etc. C'était un mouvement énorme qui a été, on a mis fin, parce que Rome ne voyait pas cela d'un très bon œil.
Il semblait
qu'ils avaient carrément fin. Tout à fait. Disons que c'était, de point de vue de certains, effectivement, des hérétiques, des inorthodoxes. Donc, on a mis fin à ça. Mais à mon avis, il y a un courant souterrain. Et moi, je m'intéresse à ces courants souterrains. Je m'intéresse au-dessous des cartes aussi.
Oui, les cartes, ouais. Et le dessous des,
voilà,
cartes.
Voilà.
Bis Ballhausen, Bilbao, 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 war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne, und was die Welt für euch genannt. Aber wenn sie da hereingekommen wäre, ich weiß nicht, ob ihnen sowas gerade gefällt. Ach, Randy lachen war, wo man saß, auf den Kanz wurde wuchs das Gras. Unter unter Ohren schien durch das Dach, ne Musik gab's da, man konnte sich bestürmen für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach.
Je voudrais aussi qu'on parle de ce que vous avez appelé le nomadisme intellectuel, parce que ça rejoint aussi le courant souterrain, le nomadisme,
oui,
intellectuel.
Oui.
Ça rejoint aussi les affinités extrêmes,
oui,
que vous avez déjà évoquées tout à l'heure.
Tout à fait. Ces affinités extrêmes sont les nomades
extrêmes,
intellectuels.
Oui.
Oui, oui. Oui, bon, le nomade intellectuel, très rapidement, parce que j'ai écrit tout un livre là-dessus, L'esprit nomade, avant l'introduction de la géopolitique de Plateau de l'Albatros. Le nomade intellectuel, si on prend l'image de l'autoroute de l'Occident sur laquelle nous sommes tous engagés depuis Platon et Aristote jusqu'à maintenant, à un moment donné, tout a été porté par le mythe, la métaphysique ou la religion. À un moment donné, Hegel, philosophe Hegel, dit que l'histoire est rationnelle, l'histoire mène quelque part. Alors ça a été traduit selon les idéologies locales. En Allemagne, c'était Bismarck, l'État le plus puissant, continué par Hitler. Un peu plus à l'est, avec le marxisme-léninisme, c'était un État puissant qui aurait pour mission de mettre fin à tous les États et inaugurer le communisme universel. Un peu plus à l'ouest, dans nos pays dits libéraux, c'était l'idée d'une espèce de supermarché du bonheur. Or, l'État puissant Bismarck-hitlérien a vu sa fin, heureusement, à Berlin et à Berchtesgaden. Le marxisme-léninisme, la lumière s'est éteinte il y a quoi ? Il y a une vingtaine d'années, on peut dire. Tout ce qui reste, c'est le supermarché. Un supermarché de plus en plus super, mais personne n'en attend le bonheur. Et on arrive à la situation contemporaine, qui est une situation à la fois confuse, basée peut-être sur une frustration profonde, avec des violences aveugles, avec un punkisme no future, tout ce qui constitue le journal quotidien. Alors, heureusement, il y a des gens qui voient les choses arriver plus vite. On vit dans une espèce de contemporanéité fermée sur le contemporain. Les gens ont très peu de perspectives, perspectives historiques, perspectives culturelles. Donc on vit dans un enfermement de plus en plus étouffant, d'où ces violences absurdes d'ailleurs. Celui que j'appelle le nomade intellectuel voit sa venir, quitte l'autoroute, il suit des chemins, des pistes de pensée, des chemins de culture, des sentiers du sentir, et essaye d'ouvrir un autre espace. Et les premiers exemples que j'ai pris dans mon livre « L'esprit nomade », c'est Rimbaud en poésie et Nietzsche en philosophie. Mais tous ceux dont je parle dans les affinités extrêmes suivent ce genre de méthode, enfin de cheminement et de méthode. Donc le nomade intellectuel, effectivement, c'est celui qui suit d'autres pistes, et tous mes livres sont des livres de pistes itinéraires, de cheminement, et qui essayent d'ouvrir un espace, un nouvel espace. Moi, j'appelle cet espace géopoétique, pour revenir au mot que vous avez prononcé au début. Parce que si on regarde ces 35 cultures du monde, au centre, il y a toujours un foyer central que tout le monde reconnaît. Par exemple, la culture chrétienne du Moyen-Âge dans nos pays. Au centre, il y a la Vierge Marie et le Christ. Tout le monde y pense. Le paysan dans son champ, le philosophe dans son cabinet. Tout le monde pense à la même chose. Il y a un foyer central. De niveau des discours différents, je vais bien. Mais il y a un centre. Si on pense à la culture grecque, au centre, eux, ils inventent la politique. Et c'est l'agora. Là, on discute de la façon dont les gens peuvent vivre décemment ensemble dans une cité. C'est la politique qui est l'invention grecque. Pour prendre un autre exemple, et j'arrêterai là. Dans une tribu primitive, paléolithique, néolithique, le centre d'intérêt, c'est le rapport à l'animal. Comme dans les cavernes peintes d'Altamira ou de Lascaux. Alors je me suis posé la question, est-ce que Nord, Sud, Est, Ouest, aujourd'hui, au-delà de toutes nos idéologies, au-delà de toutes nos religions, au-delà de tous nos localismes, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle on peut s'entendre, quelque chose à laquelle on peut tous se référer? Je me dis, c'est la terre même sur laquelle on essaye de vivre, souvent assez mal. D'où le géo dans ce mot poétique. Quant au mot poétique lui-même, je lui donne une force et une envergure qu'il n'a pas souvent, surtout dans le langage qui a cours aujourd'hui. Je lui donne la force qu'avait la poétique du chaman dans une tribu primitive qui vraiment concentre les énergies de la tribu et qui maintient le contact entre le groupe humain, la tribu en l'occurrence, le groupe social, et le grand univers non humain. Ça, c'est son rôle. Et ça fait respirer l'humanité. Les Grecs, comme je dis, ils inventent la politique, mais ils savent très bien que la politique peut toujours dégénérer en politique aérie, pour ne pas dire pire, s'il n'y a pas une poétique, et c'est la poétique d'Homère, qui irrigue en quelque sorte le territoire. En Chine, pays bureaucratique par excellence, ultra centralisé, vous avez quand même un livre de poèmes, le livre des Odes, qui, au contraire de toute bureaucratie ultra centralisante, véhicule, je cite le vieux livre, le vent des territoires, qui donne cette expansion. Alors, par poétique, moi j'entends un langage, un discours qui donne cette ouverture. Voilà le sens en deux mots, parce qu'il y a tout un livre là-dessus, Le plateau de l'Albatros, introduction à la géopolitique. Voilà en deux mots ce que c'est. C'est la tentative d'ouvrir un nouvel espace culturel en remontant à la base, à mon avis, de ce qui constitue la base de toute culture vraiment vivante et durable. Et c'est le rapport entre l'esprit humain et la terre. Ça, c'est la base. Et une poétique, c'est le langage le plus dense, le plus dru et en même temps le plus ouvrant pour véhiculer cela, pour porter cela.
Je comprends à quel point vous avez touché dans tous les domaines et dans tous les lieux de l'Europe avec cette optique-là. Et je vois que vous avez aussi donné des précisions très matérielles. Vous avez évoqué Rilke, qui est forcément à Duino, proche de Trieste, Proust, Ruskin, qui sont à Venise. Vous avez cité des gens dans des lieux, parce que vous êtes sensible à ça aussi.
Oui. Tous mes livres de voyage, qui sont en fait des itinéraires de nomades intellectuels, maintenant qu'on a dit ce que c'est, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se balade gentiment de par le monde, c'est quelqu'un qui se situe dans un certain contexte et qui essaye de suivre des pistes qui peuvent mener à quelque chose d'essentiel. Donc, chez moi, il y a une espèce de dialectique entre l'errance et la résidence. Je réside quelque part, j'étudie pour que mes voyages soient autre chose que des vagabondages. Et j'ai fait des voyages pour récolter des choses à travers le monde, nord, sud, est, ouest, que je rapporte chez moi. Donc, ce livre va traverser des territoires que j'ai choisis. Et je les ai choisis souvent. Dans ce livre, j'ai voulu des villes. Et des villes, bon, par exemple Glasgow, pas seulement parce que c'est ma ville natale, mais parce que c'est une ville intéressante en soi. Moi, je l'ai connue à la fin de la révolution industrielle. C'est la ville qui a fait la première analyse du capitalisme dont on vit certaines conséquences aujourd'hui. Si j'ai choisi Venise, c'est à cause de la République de Venise, la Sérénissime République. Donc, des villes qui ont ce genre d'intérêt-là, mais aussi des espaces physiques. Moi, j'ai toujours besoin d'un contact physique avec des territoires. Par exemple, en Espagne, je vais vers les monts d'Europe ou vers la côte galicienne. Donc il y a besoin de lieux physiques. Et puis aussi, il y a des contacts avec des individus, bien sûr, de chaque pays, et des contacts avec les écrivains. Et les écrivains passent à travers les pages de ce livre comme passerait dans un roman des personnages. Mais à mon avis, ces écrivains sont beaucoup plus intéressants que la plupart des personnages de romans. Donc, mais je les fais entrer naturellement, en quelque sorte. Hein. Si je suis à Venise, je vais aller prendre un café dans un certain établissement et je sais que John Ruskin, un Écossais extrêmement important du 19e siècle, il a songé à son livre « Les pierres de Venise ». Je n'oublie pas non plus que Proust fréquentait le même café et je n'oublie pas que Proust s'intéressait beaucoup à Ruskin, a traduit Ruskin, ça c'est on a tendance à l'oublier, et il est certain que John Ruskin a eu une influence sur la composition de À la recherche du temps perdu. Si je vais en Angleterre, je m'intéresse à Hardy, celui qui a écrit Loin de la foule déchaînée ou Le retour au pays natal. Donc il y a ces attirances à chaque fois, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas de petites balades gentilles, ce sont des explorations. Mais ayant dit cela, rien de pondéreux, rien de lourd. Moi, je suis toujours pour présenter les choses avec un certain humour et avec, au-delà de l'humour, le rire du gai savoir, c'est-à-dire un peu de distance vis-à-vis des choses aussi. Hein. En résistant à l'état de choses que j'ai évoqué tout à l'heure, mais cette résistance chez moi n'est pas une résistance crispée, c'est une résistance rieuse, comme une mouette rieuse.
Oui. C'est une ouverture.
Oui, une ouverture. Mais ça c'est, mais avec... c'est pas pour rien qu'un de mes livres s'intitule « Un monde ouvert ».
Vous avez aussi beaucoup le sens de la poésie. On sait tous que la planète Terre est une petite planète bleue, mais vous, votre Europe est bleue et tout est bleu. Et j'ai beaucoup aimé, il y a même des chapitres qui s'appellent comme ça, La fumée blanche et falaise bleue. Ah. Et vous avez le sens du bleu. Alors vous avez des bleus fumés, des bleus ombragés, des bleus verts... Et ça correspond à quoi chez vous? Parce que vous ressentez le bleu.
J'en étais pas tout à fait conscient, mais je crois que vous avez raison. Un de mes livres s'appelle La route bleue.
Oui,
La
j'ai entendu bleue. Tout à l'heure quand voilà. Vous en parliez.
C'est un voyage de Montréal jusqu'au Labrador. Par route bleue, là, je pensais à la route rouge d'un Indien, des Indiens, des Amérindiens. Il y a un vieux chaman amérindien du 19e siècle qui a dit « La route rouge est perdue ». Alors moi, je n'ai pas essayé d'imiter la route rouge, mais la route bleue, c'est-à-dire... quelque chose de plus obscur. Le bleu va vers l'obscur et vers le profond. Donc, effectivement, le bleu est là. Enfin, le bleu est là pour cette raison-là. Mais j'aime bien aussi le blues. J'aime bien le jazz blues. Qu'est-ce que j'aime dans le blues, à part ses aspects seulement musicaux? C'est un certain scepticisme, un certain stoïcisme avec de l'humour. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup la note bleue, cette note bleue qu'il y a dans le jazz, une note... petit décalage. J'adore ça. Et j'aime écrire comme ça. Donc ça, c'est encore un aspect du bleu, des blues. Et il y en a peut-être d'autres. Je n'ai pas fait le compte. Voilà au moins deux aspects.
La lumière est bleue très souvent et les bleus sont frais. La Vierge de Torcello, mais ça, ce n'est pas très étonnant pour une Vierge, mais elle est forcément, j'attendais, oui, elle est drapée de bleu.
Ouais.
Et les oiseaux aux brillantes ailes bleues. Ça, c'est votre pelage qui est évoqué
c'est-à-dire
là.
C'est-à-dire que sans doute pour moi, le bleu est à la fois vif, mais sans être criard. C'est ce que j'aime. Je ne crie pas sur les toits. Je déteste le prophétisme, la déclamation, les grandes choses criardes. Mais je suis pour le vif et le profond. Le bleu, c'est peut-être ça. J'utilise beaucoup les couleurs, c'est vrai. Je suis très visuel. Ce n'est pas pour rien que je travaille beaucoup avec des peintres. Les peintres, en lisant mes livres, effectivement, trouvent une matière de départ, en quelque sorte.
Ah oui, il y a une palette, parce qu'on a parlé du bleu, mais il y a aussi le rouge, le blanc, le jaune. Mais c'est le bleu qui, moi, tout cas, m'a frappé.
Qui prédomine, ouais, vous avez sans doute raison.
Parce que c'est votre note bleue à vous.
Oui, c'est ma note bleue, oui. Il y a une piste bleue.
Et la carte de Guido, le pèlerinage européen, en fait, c'est la lampe allumée du souvenir.
Il y a du souvenir, il y a des aspects historiques. Oui, il y a une évocation, quelquefois, de l'histoire. Parce que, après tout, nous sommes des créatures aussi de l'histoire. Il y a des aspects géographiques. Et le souvenir plus personnel qui remonte de temps en temps. Le tout début du livre est effectivement une évocation de souvenirs. Glasgow me remonte à la mémoire, comme le mugissement d'une sirène de bâtir sur la clay d'un soir de brume, comme le refrain lancinant d'une chanson des rues, comme un crépuscule embrasé sur Great Western Road, comme un terrain vague sous la lune. Oui, il y a du souvenir. Mais sans nostalgie. Je n'ai pas de nostalgie. même à la fin, retour clandestin au pays natal, je veux que ce soit clandestin. Je ne veux pas me vautrer dans des souvenirs de famille, dans des rencontres sentimentales. Je vais éviter tout ce qui est encombrement. C'est clandestin et anonyme.
Et oui, et en fait, vous revenez pour rester cette nuit sur la côte ouest de l'Écosse à écouter la mer.
Voilà, on termine effectivement sur l'ouverture, sur la notion d'un monde ouvert.
Au revoir Kenneth White et merci beaucoup de cette émission. Vous avez la gentillesse de nous lire quelques passages qui vous semblent plus intéressants et touchants que d'autres sur votre carte de Guido dans cet itinéraire transeuropéen qui est peut-être aussi un peu transcendantal.
Voici un extrait du chapitre « Tropique de Saturne » où il est question de Glasgow. La plupart de mes livres, je les achetais d'occasion pour 3 sous aux bouquinistes de la ville qui présentaient leurs marchandises sur des brouettes dans Renfield Street et Buchanan Street. Je me rappelle un matin au coin de Buchanan Street et de St. Vincent Street, un matin d'automne. J'avais fouillé dans une de ces brouettes et j'avais à la main un vieux classique socialiste, le livre de Henry George, « Progrès et pauvreté », quand le bouquiniste m'adressa la parole. Vous lisez ce genre de choses? Ah, je lis toutes sortes de choses. Il a vu, me dit-il, un placard chez lui plein à craquer de cette littérature. L'histoire des révolutions en France et en Russie, les conditions sociales en Écosse et en Irlande, les rêves utopiques, tout ce fourbi-là. Dans le temps, ça intéressait les gens. Plus maintenant. C'est fini tout ça. Si ça me tentait le moins du monde, je n'avais qu'à aller chez lui et il me fourguerait toute une bibliothèque pour presque rien. Les gens ne lisent plus que des magazines. Lui-même, poursuivit-il, avait été membre de l'ILP, Independent Labour Party, le Parti indépendant des travaillistes. Maintenant, il était membre des SDA, Suite d'Amol, les revenus de tout. Ce bouquiniste était borgne. Son œil gauche était bleu pâle comme un caillou de quartz. Son œil droit rouge comme un conde houblon. Il m'apprit aussi qu'il avait mal aux côtes, sans doute le résultat de quelques rixes provoqués par la théorie de la relativité. Il en avait discuté la veille au soir dans un bar près des docks, l'Aurora Borealis, réputé pour ses dialogues animés. Il s'appelait curieusement Kofer, et le nom m'est resté en tête, car dans la Kabbale, on s'en souviendra, Kof signifie l'intelligence planétaire et le début du grand œuvre. Voici maintenant Bruxelles. J'arrive à Bruxelles un soir d'hiver. Il était tard quand nous sommes arrivés à Bruxelles Sud et il faisait un froid de chien. Une grande froidure s'étendait sur toute l'Europe. J'ai une certaine expérience des gares, mais ce soir-là, peut-être parce que j'étais fatigué, Bruxelles Sud a eu raison de moi. Impossible de trouver la sortie. À la fin, j'ai demandé mon chemin à une petite femme toute ratatinée qui avait l'air de savoir des choses. Elle se concentra un instant, puis fit un geste de la main gauche. « À gauche ? » demandai-je. Puis elle dessina une autre courbe avec la main droite. « À droite ? » dis-je. De toute évidence, gauche et droite n'étaient que de vagues approximations. mais ses gestes me permirent au moins de sortir dans la rue. Là, j'ai arrêté un passant et lui ai demandé s'il pouvait m'indiquer la place Roup. « Non parler français », répondit-il avec un accent ottoman. Quelques mètres plus loin, je rencontre un autre homme et lui pose la même question. « Je ne suis pas d'ici, je suis de Namur. » Je continue à marcher dans l'obscurité jusqu'à ce que je rencontre un jeune gars à qui j'ai reposé ma question, en français naturellement, comme les deux premières fois. « Speak English », dit-il. « Un peu », répondis-je. Il fit un signe de la main gauche vers l'avant, puis un autre signe de la main droite vers la droite et ajouta « Go, go, plat troupe !» Je suis parti, rassuré. J'ai monté l'avenue de Stalingrad, le Stalingrad-Land, foulant précautionneusement ses grands pavés irréguliers couverts de glace. Et voici la place Roup, avec sa statue toute blanche d'une dame tendant une gerbe d'honneur à un vieux burgermeister du XIXe siècle, M. J.N. Roup en personne. Pourquoi la place Roup? Parce qu'en consultant une liste des hôtels de Bruxelles, j'avais été attiré par un nom, à la grande cloche. En outre, j'ai appris plus tard que c'est sur la place Roup qu'Arthur Rimbaud, au moment où, ayant quitté son hôtel, la ville de Courtrai, près de la Grande Place, il se dirigeait, le bras en bandoulière, vers la gare de Bruxelles-Sud, afin de fuir son pote, Paul Verlaine, que le dit Verlaine tira sur lui une seconde fois, ce qui amena le dit Rimbaud à penser que toute cette histoire n'était pas drôle du tout. Assis à la fenêtre de ma chambre du quatrième étage à la Grande Cloche, je suis resté longtemps à contempler la place, avec ses lumières jaunes, ses pavés verglacés et sa statue blanche. Voici un petit passage à Dublin, en Irlande. Un passage à la radio. À Radio Éireann, j'avais carte blanche et une bonne heure pour exposer mes idées sur la tradition occidentale, la culture celte, l'Europe, en fait, n'importe quoi sous le soleil et même au-delà. Patrick, mon compagnon, était assis à la table d'enregistrement avec le technicien. À un certain moment, tout en continuant à tourner ses boutons et à tripoter ses réglages, celui-ci murmura « Ces individus-là sont dangereux. On ne devrait pas les laisser faire. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Patrick. « Je vous répète qu'ils sont dangereux. On ne devrait pas les laisser faire. »« Comment ça ?» L'un d'eux a écrit un article dans un journal un jour. « Et alors ?» Ma femme l'a lu. « Ah bon ?» Et elle s'est mise à aller à des cours du soir. Et puis, elle m'a quitté. « Ils sont dangereux, je vous dis. On ne devrait pas les laisser faire. »